Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Ce matin, au micro de Chrétien d'Orient, je reçois le chanteur et compositeur Abed Azrier. Bonjour.
Bonjour.
Vous étiez déjà venu dans notre émission et vous êtes un habitué de Radio France en général. Nous allons évoquer ensemble l'épopée de Gilgamesh, dont vous proposez une réédition en poche. Vous proposez donc une traduction aux éditions Albin Michel dans la très belle collection Spiritualité Vivante, avec une préface de Hubert Haddad. Vous êtes né à Alep. Vous êtes syrien et syriaque, et votre discographie est déjà très riche. Gilgamesh est une passion ancienne, puisqu'en 1977, vous le mettez déjà en musique, et vous en proposez une première traduction depuis l'arabe en 1979, aux éditions Berg. Racontez-nous un peu cette rencontre, comment ça s'est passé?
Écoutez, la première fois, c'était, si je me souviens bien, en 1970. J'ai dû lire un petit fragment de ce texte. J'ai cherché l'origine de l'auteur. Je croyais que c'était un auteur irakien ou syrien ou libanais de nos jours, parce que je trouvais tellement moderne. Et donc, je venais de faire mon deuxième disque, toujours avec la poésie de Proche-Orient, mise en musique, etc., et chanter. Et puis, je trouve un deuxième petit texte. Je trouve pas le nom de l'auteur. Et petit à petit, je trouve que ça appartenait à un texte très ancien, très très ancien, qui est né à Sumer, vers l'an 2800 à peu près avant Jésus-Christ. Et puis, de ce petit poème sumérien, les Acadiens vont le développer et ça va devenir pendant 2000 ans élaboration extraordinaire par tous les scribes d'Akkad, c'est-à-dire de Sumer, Babylone et Assur. Et ça va, vers l'an 600 à peu près, c'est-à-dire la chute de la Mésopotamie et le transfert de la civilisation et de la culture de la Mésopotamie à la Grèce, ça va devenir le mythe d'Ulysse après. C'est la même histoire. Au fait, ces Mésopotamiens, ils ont inventé un archétype qui va voyager jusqu'à nos jours. Gilgamesh, on le trouve dans plein de choses aujourd'hui, de nos jours. Et donc, cette rencontre de 1970 m'a arrêté très longtemps et m'a fait, je pense, changer toute ma vie. Parce que je suis né dans une famille chrétienne. À 14 ans, je suis devenu laïque totalement. J'allais plus ni à l'église. J'ai refusé complètement toutes les religions. Mais je ne savais pas pourquoi. Le livre de Gilgamesh, l'histoire de Gilgamesh, m'a appris beaucoup de choses. Au fait, elle m'a fait centrer. Et elle m'a fait trouver une sorte de centre du monde. Et je pensais que tous les conflits du Moyen-Orient, à partir de cette époque-là, viennent de ça. Parce que les juifs, les chrétiens, les musulmans, ils se sont appropriés des fragments des mythes anciens et qu'ils les ont lus à leur façon. Ils se sont, en s'appropriant tous ces mythes, ils ont fait une sorte de fermeture sur eux-mêmes. Alors que si aujourd'hui on lit bien, non pas seulement Gilgamesh, les Numa Elish, le poème babylonien de la création, la descente d'Ishtar au monde en bas, etc., etc. Je pense qu'on retrouve l'origine de toutes ces religions et qu'on trouve on est tous pareils et non pas des ennemis. Et au fait, je pense que toutes les guerres du Moyen-Orient aujourd'hui viennent des religions qui se connaissent très mal. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin plus que jamais de lire un livre comme l'épopée de Gilgamesh ou comme les autres mythes babyloniens, quoi.
Au début du 5e millénaire avant notre ère, écrivez-vous, en basse Mésopotamie, la mer s'est retirée, libérant des terres nouvelles. Venus l'on ne sait d'où arrivent les Sumériens, qui, dans la vallée des deux fleuves, aux rives du Tigre et de l'Euphrate, se sédentarisent. Ils sont pasteurs, agriculteurs et, comme leurs contemporains égyptiens, maîtrisent l'irrigation. 1000 ans plus tard, ils ont bâti des temples et des palais. Kish, Ur, Uruk, leur cité-état, dessine sur l'horizon doré l'ombre rose de leurs colossaux murs de briques et, pour organiser l'économie d'abord, codifier leurs croyances, enregistrer les lois et fixer une tradition orale déjà foisonnante de mythes, de récits bibliques, de poèmes, ils ont inventé l'écriture idéographique. Et vous dites que le plus vieux texte de l'humanité, peut-être
qui raconte une histoire humaine, oui. C'est-à-dire, avant Gilgamesh, il y a d'autres hôtesses pleins. Mais qui raconte l'histoire des dieux. Parce que les hommes n'avaient aucune importance. Et on, par la suite, on commence à parler des gens un peu qui s'approchent des dieux, qui sont les héros, après la naissance de l'homme. Et avant Gilgamesh, il y a Etana, le héros, Adapa, et ensuite Gilgamesh. Ce sont des gens qui ont essayé, ces héros, de trouver une solution à la condition humaine, c'est-à-dire à la mort, et de trouver une équivalence, quelque chose qui nous surpasse et qui nous met plutôt, qui nous transcende, quoi. Et Gilgamesh transcende sa tyrannie, sa condition humaine et sa mortalité par la sagesse, par la connaissance, par l'effort de trouver une solution à son angoisse. Et je pense que ces anciens Mésopotamiens, ils ont beaucoup de choses à nous dire, particulièrement aujourd'hui. Particulièrement, je dis bien, parce que nous sommes partis dans une vitesse où on ne va plus rien comprendre prochainement. Et donc, on a besoin de faire un peu, de freiner un peu, et de revoir un peu nos veines, d'où ils viennent, notre sang, notre cerveau, nos regards, et peut-être pour apprécier notre esthétique, notre façon de vivre, notre connaissance, je pense.
C'est le Mésopotamien qui est en vous qui nous parle ce matin.
Le Mésopotamien depuis l'âge de 70, quoi, 1960, quand j'ai lu ce texte, qui m'a ouvert la porte à d'autres textes, grâce au musée du Louvre, grâce à tous les travaux des chercheurs depuis 1850 à peu près en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, qui nous ont laissé des documents. Et moi, à partir de ces jours-là, avant j'étais un lecteur de comme tous les jeunes de 15 ans, de Camus, de tous ces auteurs, et surtout de Rimbaud, de Baudelaire, etc., en arabe, parce que j'ai appris le français en France. Mais la lecture, la découverte de ces mythes, je crois, m'a donné une matière qui m'a équilibré beaucoup plus qu'autrefois, où je cherchais l'Orient, l'Occident, j'appartiens à quelle culture. Mais au fait, toutes ces cultures appartiennent à la Mésopotamie, au fait.
D'où cette importance de l'épopée de Gilgamesh pour vous et pour les cultures d'Orient ?
Absolument, absolument. Parce que c'est quoi ? L'Orient, c'est le berceau de toutes les religions monothéistes qui sont quand même répandues dans le monde. Mais si vous lisez bien la Bible, il n'y a aucun mot qui est nouveau dans la Bible. La Bible, c'est un livre de compilation de tout ce qui a été dit avant. Donc, avec une sorte d'imaginaire de l'époque où ça a été écrit, et puis la Bible a été écrite sur 1500 ans. Donc, on a effacé, gardé. Il y a même des fautes de dictée. Il y a même certains archéologues, dans un mythe sumérien extraordinaire qui s'appelle Enki et Nunirsag, qui est l'histoire d'Adam et Ève, où c'est pas Ève qui est la cause de la chute de l'homme, mais c'est plutôt Enki, l'homme qui est la cause de la chute de lui et de sa femme, et que, à la fin, elle lui pardonne et ils vivent dans un paradis. Ce paradis s'appelle Dilmun. Et à partir de ça, par exemple, l'histoire de la côte, d'Adam ou de Enki, où on tire, la femme, au contraire, les scribes hébraïques, ils sont trompés de mots, de dictées, parce qu'ils ont traduit la côte en côte de viande. Alors qu'à l'origine, la côte veut dire en sumérien la guérison. Et donc, ils se sont appropriés un mythe, mais ils l'ont écrit à leur façon à une époque-là. Et tout cela, vous savez, il faut revoir tout ça, parce que pourquoi on est... Et c'est là où date la condamnation de la femme à un esclave. Depuis 5000 ans, nous assistons à une chute de la femme effroyable. Et dans les trois religions monothéistes, c'est le cas. La femme, c'est vraiment rien du tout. Et alors que
donc sur un malentendu, finalement.
Mais c'est un grave malentendu. Et c'est pour cela qu'il faut revenir à ces textes anciens, qui ne sont pas si anciens que ça. Parce qu'ils sont vivants dans le Coran, ils sont vivants quand vous lisez le Coran aujourd'hui. Mais je rigole, on lit quoi ? On lit que des histoires anciennes, mais qui sont faites par des policiers ou par des moralistes, et qui vous disent que ça c'est permis, ça c'est pas permis, alors qu'à l'origine... Tout est permis, puisque les dieux ou le dieu a créé tout ça pour l'homme. Donc je ne vois pas pour tous ces interdits, tous ces haram, halal. C'est effrayant. Dans la Bible, c'est pareil. On ne peut pas se laver comme ça, mais on peut boire l'eau comme ça. Alors que tout cela, ce sont des détails, je dirais, techniques, de rien du tout. L'important, c'est le centre de tout ça. Et le centre, on le trouve dans ces textes anciens.
Alors dites-nous justement que contient l'épopée de Gilgamesh. On sait, on se souvient pour ceux qui l'ont lu, oui, le fameux récit du déluge. Voilà,
oui,
quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits. Sinon, racontez-nous, résumez-nous un petit peu l'histoire.
Alors avant de résumer, on peut considérer ça comme une histoire anecdotique, mais elle est vraiment extraordinaire, je dirais même théâtrale. C'est un jeune homme qui s'appelait George Smith, anglais. Il était ouvrier dans une...
Une imprimerie.
Une imprimerie de pièces, de billets de banque. Donc, il avait un regard très, très, très précis. Et dans les billets, vous savez, c'est un travail colossal, pire qu'une peinture. Et ce garçon-là, il avait à peu près 21 ans. À l'heure de déjeuner, il avait un petit sandwich, il ne mangeait pas. Il allait en face de son imprimerie au British Museum, passer son temps. Et au bout de quelques temps, il est arrivé à dire, alors que les archéologues de l'époque considéraient les tablettes d'argile qui venaient en Angleterre, au British, que c'était des décorations. Que c'était des éléments décoratifs.
Nous sommes vers 1860 à peu près.
À peu près, oui, voilà, c'est ça. Et Georges, il fait une déclaration effroyable, terrible, choquante à tout le monde. Il dit non, c'est de l'écriture. Et c'est une écriture qui raconte une histoire, et cette histoire, c'est l'histoire du déluge. Et c'est là où la société biblique, toutes les sociétés... des intellectuels de l'époque lui proposent une bourse pour aller chercher s'il y a une suite à ces tablettes. Il arrive là-bas, en si peu de temps, il trouve les 11 tablettes. Et là, il fait un puzzle où il y a une histoire du début jusqu'à la fin qui raconte l'histoire d'un héros, un roi tyrannique, méchant, effroyable, violeur des femmes, envoyant des jeunes à la guerre, etc., etc. Et puis, ça rencontre avec un sauvage que le peuple a prié les dieux pour qu'on lui invente un rival. Et ce rival va venir et il va devenir, au fait, son meilleur ami. Et cet ami, et cette amitié va le transformer en homme calme. Il va s'occuper uniquement de son amitié. Mais, au fait, il veut absolument, avec sa démesure, aller à la forêt des sept, couper la forêt des sept, c'est-à-dire faire une œuvre extraordinaire que personne n'a commis.
Et donc il voyage, il se déplace,
il va au nord avec son ami,
voilà, au nord du pays.
Au nord du pays, plutôt à l'ouest, il va au Liban en fait, en Syrie, c'est-à-dire la forêt des Sept s'étendait de Montaurus jusqu'à la Palestine autrefois. C'était toute la côte. Aujourd'hui, nous avons une quarantaine d'arbres, mais parce que toutes les civilisations ont pillé le bois de cèdre pour faire des bateaux. Les Phéniciens, les Grecs, les Romains, tous. Et lui, il avait besoin, parce que c'est un habitant de la plaine, c'est un habitant des fleuves, c'est pas un habitant de la mer. La mer, à l'époque, on l'appelait les eaux de la mort. Donc il fallait un bois qui résiste à la mort. Et il n'y a qu'un seul bois qui est éternel, c'est le cèdre. Donc à partir de ça, il ramène le bois, et puis les dieux décident de le punir. Parce qu'il a dépassé, les droits humains, et ils font mourir son ami. Et à partir de ça, il a une prise de conscience terrible. La mort de son ami va réveiller en lui la mort, sa propre mort. Et il va abandonner le pouvoir, il va abandonner tout, et il va faire une quête, un voyage, pour retrouver l'homme qui a trouvé l'immortalité, parce qu'il a sauvé l'humanité du déluge, qui s'appelait Utanapishtim.
خلعت رداءها كشفت عن صدرها أغوته كما تغوي المرأة مال إليها ضمها إلى صدري ستة أيام وسبع ليال مع المرأة مع المرأة رأته حيوانات البرية مع المرأة مع المرأة أنكرته وأجفلت نفرت عنه فاغتم أنكيده ثارت قواه وهن جسده. اغتم أنكيدو إلفه فارقه خذلته ركبتاه قعدا لم يعد يقوى على الركض.
Avec Abed Abzirik, nous venions d'entendre dans La Femme Initiatrice ce petit morceau de l'épopée de Gilgamesh que vous avez mis vous-même en musique. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le morceau que nous venons d'entendre ?
C'est un morceau qui s'appelle La Femme. Au fait, lorsque Gilgamesh découvre qu'il est un homme fort, sauvage, né dans les prairies avec les animaux, il demande de le ramener. Et donc, il a les moyens d'envoyer 1000 soldats pour le capturer dans un filet. Mais il ne fait pas ça. Il envoie une femme seule, courtisane du temple, d'Ishtar, pour le séduire, pour lui apprendre la civilisation. Donc, d'abord, elle commence par son corps. Elle lui apprend à faire l'amour. Elle lui apprend le corps, d'abord. Ensuite, elle l'amène chez les bergers. Et tout en lui parlant tout le temps de la cité, de la beauté de la cité, que l'homme est sécurisé derrière des temps, des remparts. Et puis, là-bas, elle lui fait goûter le pain et le vin. C'est-à-dire le pain et la boisson forte. Vous voyez, les symboles chrétiens.
Une forme d'eucharistie avant l'heure.
Ils sont là déjà. Vous savez, dans les trois religions monothéistes, il n'y a rien de nouveau. Simplement, ce sont des interprétations d'une époque qui n'ont pas cessé d'évoluer ou de régresser. Par exemple, le christianisme que j'ai connu dans mon enfance, pour moi, quand je suis arrivé en France, j'ai dit les Français ne sont pas chrétiens, c'est une autre religion. Et tant mieux, parce que la société française ou la théologie chrétienne en France a eu ces philosophes, ces théologiens de Saint-Augustin jusqu'au Théard de Chardin, etc. Alors qu'en Orient, la théologie chrétienne n'a pas beaucoup évolué depuis Saint-Éphrem et depuis les autres. C'est très peu, quoi. Et ça, je trouve pareil pour la Bible, pour le Coran. Aujourd'hui, de l'Afghanistan jusqu'à l'Algérie, il n'y a pas un vrai théologien. Il y a des croyants, il y a des imams, mais il n'y a pas de théologien qui explique, qui interprète. Et c'est ça le drame de nos religions aujourd'hui. Pour cela, c'est bien de revenir aux origines et d'ouvrir les portes.
Et sur cette manière de chanter très précisément dont vous me parliez, c'est une manière ancienne, un chant ?
Alors vous savez, moi j'ai été élevé dans une église, dans une école chrétienne syriaque, donc je suis imprégné de liturgie syriaque follement, vraiment dans mon enfance. Mais j'ai toujours été dans les églises byzantines, et surtout dans les rituels islamiques. J'adorais, parce que ma mère adorait ça. Elle m'amenait toujours chez les musulmans, quand on était petit, alors que ma mère était chrétienne. Et je crois que cette enfance m'a permis d'entendre tellement de chants de... Mais au fait, c'est le terreau oriental, hein, des liturgies d'Orient, de toute façon. C'est très différent, la musique byzantine, de la musique syriaque, mais l'islam, si vous voulez, la liturgie islamique, elle est le mélange des deux.
Une forme de syncrétisme à sa manière.
Oui, et puis à la fois, c'est, comment dirais-je, parce que l'islam est né en Arabie, mais il s'est développé surtout en Proche-Orient. Et le Proche-Orient, donc, il a emprunté tous les éléments de la culture orientale, non pas d'Arabie.
Revenons à Gilgamesh, à son épopée et à cette mention d'un déluge. Dites-nous-en un peu plus.
Alors, quand il arrive, Gilgamesh, c'est l'homme qui a été sauvé du déluge et qui a sauvé une partie de l'humanité pour que les dieux, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, qu'il y a la race humaine qui persiste et qui continue à vivre. C'est exactement la même histoire de Noé à la lettre.
Donc le texte de Noé aurait été inspiré par ce texte mésopotamien ?
Il a été copié, il n'a pas été inspiré. C'est une copie pour moi. Et puis moi, je n'ai pas peur de dire que je suis juif, chrétien, musulman et à la fois mésopotamien. Je pense que nous sommes dans la même culture. Je n'ai pas d'obstacle dans toutes ces cultures-là. Elles font partie du même terreau et du même bassin. Donc, il arrive chez Utnapishtim, l'homme qui a retrouvé l'éternelle jeunesse, ça veut dire, et qui a trouvé l'immortalité, que les dieux ont fait habiter à Dilmun, qu'on situe aujourd'hui, les archéologues le situent, à Bahreïn. Et c'est là où il y a la tradition de la pêche des perles, où Gilgamesh a plongé comme les pêcheurs de perles pour chercher la plante de l'immortalité qui lui pique les mains. C'est bizarre. Vous savez, il y a beaucoup des images qui sont parallèles, mais au fait, toutes ces régions-là ont retrouvé ou ont inventé la même culture, et à la fois, cette culture a voyagé après en Grèce, ensuite à Rome, en Occident, aux États-Unis. Vous savez, la situation voyage, part, et puis Quand on voit aujourd'hui la Grèce qui est, on dit c'est pas possible, c'est pas là que où il y a eu Aristote et Socrate. Mais si, mais les choses ont eu fin. Dans 200 ans, qu'est-ce qu'on dira de la France ? Je n'en sais rien.
Où vas-tu, Gilgamesh ? La vie que tu cherches, tu ne la trouveras pas.
Oui, tous les dieux ou semi-dieux ou humains qu'il rencontre lui disent à Gilgamesh ça. Et avec entêtement, il continue, il veut absolument trouver une raison à son angoisse, à sa dépression de la mort de son ami, parce qu'il va mourir lui aussi. Et Utanapishtim, je vais vous lire un petit passage, l'homme du déluge, il lui raconte, d'ailleurs il lui dit ce petit texte pour qu'il se calme, qu'il s'apaise un peu. Il dit, Gilgamesh, pourquoi cette douleur dans ton cœur ? Toi qui portes en toi la chair des dieux, la mort est cruelle et sans merci. Qui de nous bâtit des maisons indestructibles ? Qui de nous scelle des contrats éternels ? Les frères héritent, partagent, mais quel héritage est perpétuel ? La haine, même la haine, existera-t-elle dans le pays pour toujours ? Est-ce que le fleuve monte et amène la crue pour toujours ? La libellule, à peine sortie à la lumière, entrevoit le soleil et atteint son terme. Depuis les temps les plus anciens, hélas, rien ne dure. Le dormeur et le mort se ressemblent. Les deux n'ont-ils pas l'aspect de la mort ? Qui, la mort venue, peut distinguer entre le cerf et le maître ? Et Gilgamesh, entendant ces phrases, il s'énerve encore plus parce que l'autre, il a acquis la sagesse fondamentale pour lui dire des phrases pareilles. L'autre, il est encore angoissé et l'histoire continue. Finalement, la femme d'Utanapishtim, l'homme du déluge, elle lui dit à son mari, écoute, il a fait un tel voyage, un tel effort, fais quelque chose, donne-lui un cadeau. Alors il lui indique la plante de l'immortalité qui pique la main quand il la trouve. Et c'est là où il la ramène, il veut la manger avec son peuple. Pour que les gens ne meurent plus. Comme à Dilmun, d'ailleurs. Cette île où il y a une sorte de paradis. L'homme ne vieillit pas, la femme ne souffre pas, etc. Et à ce moment-là, Gilgamesh, en rentrant, il veut redevenir roi, il est sale, il a les cheveux longs, etc. Il va dans un petit lac pour nager, et un petit serpent vient et lui mange la plante de l'immortalité, et elle perd sa vieille peau. C'est là où le serpent devient l'emblème de la médecine, d'ailleurs. Et de la guérison. Et Gilgamesh pleure tous ses efforts, il rentre chez lui, mais en voyant sa ville où il a construit des remparts, des champs, des temples, il trouve qu'il a fait quand même quelque chose. Cet effort de chercher l'immortalité et le rend un peu immortel. Et la preuve aujourd'hui, à cette heure-ci, on parle de lui.
C'est un texte que vous avez traduit de l'arabe.
Oui, mais d'après des tablettes sumériennes, babylonienne, hittite, ourite.
Il vous a semblé important de revenir à cette forme de source ?
C'est important quand même parce que ces gens-là, ce sont des puits de science, tous ces archéologues, mais leur drame, c'est qu'ils écrivent très mal. Donc je suis retourné à leurs travaux et j'ai fait une version poétique agréable à lire.
Par rapport à ces traductions en français, en anglais,
oui,
en allemand peut-être ?
Au moins une douzaine en français.
Oui.
Mais ce sont souvent faits souvent par des archéologues qui nous apprennent énormément de choses, mais qui sont pas très agréables à lire, on va dire.
Et est-ce que votre connaissance de l'arabe vous a aidé pour...
Oui, bien sûr, je suis bilingue complètement.
De l'arabe parlé, pardon, de ces...
Oui,
de dictons,
vous savez, par
peut-être,
exemple,
de...
dans Gilgamesh, il y a plein, comme de tous ces mythes anciens, de phrases, d'aphorismes, de proverbes, qui sont restés vivants dans la vie courante. Par exemple, quand Gilgamesh invite Enkidu à la bagarre sur la place d'Uruk, à la fin, Gilgamesh, un homme de cité, un homme de technique, il gagne. L'autre, il est comme Tarzan, il est fort, puissant, mais il n'a pas la technique. Et donc, l'autre, il le coince. Et Enkidu, honnête comme il est, un homme de la écologique, un homme de la prairie, il lui dit, c'est toi le plus fort. Et à ce moment-là, il lui dit, tu as vraiment têté le lait de ta mère. Ça, ma mère, quand on était petit, on entendait ça, nos voisines nous disent, ah, ton fils, il a vraiment têté ton lait, il est authentique, il est formidable. Je veux dire, il y a plein de phrases comme ça que j'ai tenu à les reformuler telles qu'ils sont dans la vie quotidienne aujourd'hui au Moyen-Orient.
Et ça, ce sont des choses que, par exemple, les archéologues de l'époque ne pouvaient pas savoir.
Je ne crois pas qu'un Français peut comprendre cette phrase. C'est pas parce qu'elle est difficile, parce qu'elle n'est pas traditionnelle de la France. Et donc moi j'ai insisté à, par exemple, certains traducteurs, ils mettent pas ça en lumière, voyez, ils mettent ça comme une phrase passagère. Pour moi non, elle n'est pas une phrase passagère, parce qu'elle est encore vivante depuis 5000 ans.
Ce qui veut dire, ce qui montre qu'il y a une continuité évidente de culture.
Absolument, absolument. Et ce qui a fait la rupture dans toutes ces cultures, moi je dirais, c'est les religions elles-mêmes qui sont la cause de la rupture. Si aujourd'hui, dans une école rabbinique, on étudie Gilgamesh, on étudie le mythe de la création babylonienne, à mon avis, un juif sera plus juif. Parce qu'il comprend l'origine de la religion juive. Un musulman, pareil. On va pas se référer à un imam d'Arabie Saoudite pour comprendre le Coran. Il faut revenir à la source. Et donc, le Coran, c'est un livre qui vient de toutes ces sources mésopotamiennes aussi. Et la langue, déjà elle-même, l'arabe, vous savez, de l'époque du Coran, 7e siècle, c'était une langue qui existait. L'arabe n'est pas la langue de l'islam. C'est plutôt l'islam qui s'est approprié la langue arabe, qui est araméenne à l'époque. Donc quand on lit aujourd'hui le Coran de 7e siècle, au fait, nous avons un arabe, comme disent certains philologues, un arabe araméen. Et donc, beaucoup de gens discutent le sens des mots. Par exemple, la première phrase du Coran, « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ». Bism, si on lit bien la lecture de Bism, c'est écrit en syriaque, c'est pas en arabe. Le premier mot déjà dans le Coran. Donc, je ne veux pas mettre en doute les choses, mais je veux dire, c'est bien de revoir les choses. C'est bien, ça nous fera du bien. Ça nous rafraîchit pour ne pas se fanatiser, s'enfermer. Et je pense que n'importe quel musulman qui relit tous ces aussi pensées, mythes, anciens comprendra, parce qu'il y a aussi le déluge dans le Coran aussi. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a David et Goliath, il y a tous ces mythes, Adam et Ève. Ils existaient avant, mais dans un sens très différent. Le sens de ces mythes était la vie, l'agriculture, la nourriture. Et la preuve, la première tablette d'argile que l'homme a inventée, c'est une tablette de comptabilité. C'est pas une tablette littéraire du tout.
Pour compter.
Ah oui, absolument. Parce que tout simplement, malheureusement, regardez, dans notre temps, on est bouffé par la comptabilité. Et cette époque-là, je pense qu'il y avait une tradition de mythologie, de pensée, d'imaginaire millénaire, peut-être 2 millions d'années, je ne sais pas combien d'années, mais comme dit Noé Kramer, l'archéologue et mythologue américain, il dit « l'histoire commence à Sumer », c'est-à-dire avec l'invention de l'écriture.
Rapidement, est-ce qu'il existe d'autres textes aussi anciens de la littérature mésopotamienne, à part l'épopée de Gilgamesh?
Vous savez, jusqu'à maintenant, on a trouvé, malgré les guerres, malgré tout, à peu près 500 000 tablettes quand même. Mais elles sont souvent pas littéraires. Mais il y a des centaines de mythes quand même, qui sont énormes. Et les travaux comme Kramer, comme Botero, comme Conteneau, comme tous ces grands... traducteurs, ils ont fait un travail, ils sont chez Gallimard, ils sont partout, mais malheureusement, ils sont écrits d'une façon un peu obsolète, c'est-à-dire adressés à des scientistes, à des scientifiques. Et je pense qu'il faut aujourd'hui des gens comme moi, d'autres, qu'ils puissent aussi reformuler, réécrire ces textes pour les adresser bien au grand public.
Disons démocratiser la parole ancienne d'une certaine manière.
Les passer au grand public, oui, absolument, c'est important. C'est comme faire écouter Bach avec des conditions bonnes, ou Mozart, ou Beethoven.
Vous vous considérez comme une forme de passeur?
C'est ce qu'on me dit, oui. Mais je ne sais pas ce que je me considère. Moi, je sais que je travaille beaucoup sur ce que j'aime. Et ce que j'aime, j'aimerais bien que les autres aussi partagent ça avec moi.
Alors, je crois qu'il y a des grands projets pour l'épopée de Gilgamesh en musique.
Écoutez, la première version était sortie en 77, parce que j'ai travaillé de 70 à 77. Et vous savez où j'ai écrit la musique? Dans ma tête, au musée du Louvre, dans la salle Goudéa. Il y a plein de statues magnifiques, très calmes, avec des gestes très fervents. Et c'est là, dans le silence, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai commencé à écrire la musique entre 70 et 77, très long. En 2010, j'ai refait une nouvelle version en public. Et là, aujourd'hui, je suis en train de préparer une version d'opéra avec chœur, orchestre et soliste.
« L'épopée de Gilgamesh avec Abed Azrieh ce matin dans Chrétien d'Orient, avec Sébastien de Courtois, un livre qui vient de sortir en poche aux éditions Albin Michel dans la collection Spiritualité Vivante. Je remercie Delphine Baudet, Didier Pinault, Dany Journeau pour la réalisation de cette émission. Émission que vous pouvez retrouver en balado-diffusion sur le site internet de France Culture. Merci.